Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 61e épisode de Torréfaction. Vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis matin à 8h avec notre petite sélecte de l'actu que je prépare en compagnie de mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fasquille.
Est-ce que ça va bien?
Bah écoute, super réveillé, 8h du mat le vendredi, nous on adore ça, tu sais, on est toujours au taquet. Les gens n'ont pas l'habitude, hein, mais c'est vrai qu'on enregistre presque en live maintenant.
Tu voulais ouvrir avec un rant, carrément un rant de la vraie vie, c'est ça?
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Non, c'était juste parce que... Donc, en fait, on n'enregistre pas du tout le vendredi matin, mais ça, les gens le savent. Mais j'ai une semaine mouvementée, et du coup, je voilà, non, c'est secret de fabrication. Parce que j'ai un NAS qui a explosé en vol, et du coup, je me suis dit, petit reminder, les amis, NAS is not backup, comme disent les Anglais, ça veut pas dire que vos données sont au chaud sur un NAS forever. Les NAS, vous savez, ce sont les petits disques durs réseau, on met plein de disques durs dans une boîte, et normalement, vous êtes tranquille. Eh bien, pas tout le temps, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il faut faire attention quand on est en RAID 5. C'est un des systèmes de RAID qu'on peut avoir dans un NAS, parce que en creusant, la mésaventure qu'il m'est arrivée ce week-end peut arriver à plein de gens et est arrivée à plein de gens. C'est-à-dire que quand on change un disque dur qui est un petit peu malade, on en met un neuf et le truc se reconstruit. Je vais pas vous expliquer les bits de parité d'entrée de jeu dans un torréfaction le vendredi matin à 8h, parce que c'est un petit peu compliqué, mais du coup ça stresse les autres disques durs. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, si on a un ou deux ou trois, enfin bon, un suffira, qui n'est pas très en forme à ce moment-là, le fait d'être sollicité pour la reconstruction du nouveau disque, eh bien, risque de le faire crever. C'est ce qui m'est arrivé. Et quand deux disques meurent dans un RAID 5, eh bien, vous perdez tout. Donc, dans mon cas, c'était pas énorme, juste 13 téraoctets de données. Ça fait un petit peu, c'est bon, c'est pas grave. Netflix est très content puisque du coup, je vais avoir beaucoup plus de trucs à regarder en streaming que dans Plex. Mais du coup, faites très attention. Et maintenant, je pense que je devais devenir un ayatollah du RAID 6, où on peut perdre deux disques sans trop pleurer, puisqu'on a le temps de les changer. Et là, on rentre quand même dans des statistiques un peu plus compliquées pour avoir trois disques qui meurent en même temps. Ouais. Donc voilà, donc, par contre, ménage digital fait à fond, puisque j'ai perdu plein de trucs. J'arrivais pas trop à trier. Je me dis, ouais, mais ça, si j'en ai besoin un jour.
C'est bien pour ce qu'on appelle les digital hoarders, les gens qui accumulent beaucoup trop de choses sur leur disque dur. Voilà,
comme
ça
moi.
Fait le tri. Ouais, c'est
comme
ça.
Moi. Donc, voilà, je confirme que la douleur est totale quand même un petit peu. Mais, je me suis dit, mes aventures, j'étais passé à deux doigts de ça en 2016. Je m'étais un petit peu reposé sur mes lauriers. Et bien, voilà, grosse baffe. Donc, faites attention, les enfants, et n'oubliez pas, backupez vos NAS.
Ouais, le backup, c'est la vie. On passe au gaming avec des news de Northgard.
Oui, alors juste vite fait, parce qu'ils sortent une petite extension gratuite, enfin pas si petite que ça justement, et je voulais en reparler parce que Northgard, c'est vachement bien, c'est fait par des petits bordelais qui travaillent super bien. J'adore l'interface de ce jeu, et là c'est un jeu de gestion, hein, où on a des petits vikings qui vont devoir s'en sortir, et pour ça aller éclater des méchantes créatures un peu partout sur la carte. Mm-hmm. C'est un RTS avec peu d'unités en fait, hein. C'est de la stratégie, on va dire lente, donc si vous aimez pas StarCraft, ne paniquez pas, c'est pas du tout aussi violent qu'un StarCraft-like. Et on en avait déjà parlé, hein, et sur le site Geekzone, et sur dans le podcast Torréfaction. Et globalement, bah, ces updates confirment que les mecs prennent grand soin de leur jeu. Ils ont rajouté une nouvelle faction, ils rajoutent des créatures, des événements. Donc je vous laisse mettre à jour ça ou l'acheter. Il y a des promos régulièrement si vous voulez pas le payer plein pot. Mais si vous aimez ce genre de jeu, foncez. Et en plus, vraiment, j'insiste, mais la réalisation, l'interface, le soin autour du titre est vraiment vraiment super bien foutu. C'est impressionnant. Donc si vous cherchez un petit jeu de réflexion stratégie sympa, n'oubliez pas qu'il existe et il est toujours là et il rajoute toujours des choses dont, d'ailleurs je sais pas ce qui est prévu encore après, parce que moi je pensais que c'était terminé, tu vois, mais apparemment pas du tout.
Et donc Google, lui, se lance dans le jeu gratos, façon de parler.
Ouais, non, c'était juste parce que c'est une petite news qui a popé un peu partout cette semaine. Google, ouais. Ils ont un petit easter egg rigolo, et pour les vieux cons dans notre genre, c'est pas mal, puisque c'est une aventure textuelle.
Ah, qui, ça rappelle Zork.
Voilà, exactement, sauf que bon, alors le scénario n'est pas aussi extraordinaire, hein, il ne faut pas rêver, si on peut parler de scénario extraordinaire pour Zork, mais c'était un débat pour une autre journée. Là, le but, c'est tout bêtement, vous incarnez le G de Google, et il va falloir retrouver vos compagnons, qui sont les autres lettres de...
Du
nom Google. Et du coup, comment ça se déclenche? Bah, c'est assez simple. Je vous mets le lien d'ailleurs dans le billet qui accompagne le podcast, ça sera plus simple. Mais en gros, la manipulation n'est pas compliquée et il faut passer par l'inspecteur de votre navigateur Chrome et vous avez la chose qui va se déclencher. Vous allez voir, la manip est hyper simple, mais comme je vais vous l'expliquer à l'oral et vous allez l'oublier instantanément, je préfère vous lier directement la manip sur le billet qui accompagne le podcast. Ne m'en voulez pas, sachez juste que ça existe et que ça vous occupera environ une heure.
Des news du côté de Blizzard, puisque Mike Morey m'a pris ses petites affaires et s'est cassé, comme
oui,
on dit.
Oui, et bah écoute, on sait pas trop qui, quoi, machin. Là, tu sais, on a eu les... Mike Morey, c'est le patron depuis des années, mais on n'a jamais les informations de derrière les coulisses.
Moi, je me souviens de l'avoir interviewé, je fais une petite parenthèse, mais je me souviens de l'avoir interviewé à l'époque de Joystick, et dans le genre langue de bois, c'est quand même un champion du monde. Hein.
C'est incroyable. Tous. Quand t'atteins un certain niveau de management aux US, je pense qu'il y a le cours langue de bois.
C'est ça.
C'est ton entreprise est en feu et les mecs, this is fine.
C'est ça.
Il n'y a pas de problème. Donc, on n'en saura jamais plus sur pourquoi il s'en va, pourquoi maintenant, etc. Le changement, c'est juste que c'est le producteur exécutif de World of Warcraft qui prend sa place, qui s'appelle J. Allen Brack. Et apparemment, d'après les infos données par notre petit doigt, l'ambiance serait assez mouille et bizarre en ce moment, puisque la réputation de Allen Brack n'est pas extraordinaire. Apparemment, il gère ses équipes d'une manière un petit peu douteuse, en tout cas pas très blizzardienne, on va dire. Et du coup, il y a pas mal de gens qui sont pas hyper contents au niveau mondial chez Blizzard. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, Morem n'a pas l'air de partir dans de mauvaises conditions, puisqu'il reste Strategic Advisor de la boîte. Bon, alors après, ça peut être complètement un bullshit title. Hein. Ça sera pas le premier, pas le dernier. Mais on verra ce que ça donne. Certains disent que c'est vraiment le début de l'Activision Spirit chez Blizzard pour de vrai. On verra bien ce que ça donne. En attendant, ils ont pas attendu Activision pour vendre des canassons à 10€ chez World of Warcraft. Donc, faudrait quand même peut-être pas tirer sur l'ambulance tout de suite. Hein.
Et puis, on va finir avec nos amis chinois qui font des copies une fois de plus.
Alors, celle-là me fait beaucoup rire. Ça s'appelle Creative Destruction. Je vous mets en lien le papier de Numérama là-dessus parce que c'est assez drôle. Donc, Creative Destruction, c'est une copie de Fortnite qui s'appelait Fortcraft. Mais là, ça se voyait un peu trop. Alors, ils ont changé le nom. Et Fortnite, c'est pas le truc le plus dur du monde à copier à la base. Mais Epic défend sa licence avec bec et ongles. Donc, je suis assez étonné que les mecs aient réussi à sortir le truc. Évidemment, c'est NetEase qui s'y colle. Pourquoi je dis évidemment? Parce que NetEase, c'est aussi eux qui ont sorti deux ou trois copies de PUBG sans sourciller. Les mecs, c'est des pros du truc. Là, la copie Creative Destruction sort sur PC et iOS avec des avantages qu'on n'a pas dans Fortnite, ce que je trouve assez drôle. Genre, il y a un mode FPS que vous n'avez pas dans Fortnite. Et ils ont rajouté aussi un truc assez drôle qui est les boutons pour les nuls. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton et bim, ça va te faire la box pour te protéger, te soigner peinard. Tu vois, là où tu es obligé de construire très très vite dans Fortnite, et ils se sont rendu compte que les mecs avaient un peu du mal, et surtout sur mobile évidemment. Donc c'est assez marrant. Pour la petite histoire, le jeu était sorti sur Android il y a plusieurs mois. Il a disparu du jour au lendemain, j'imagine, avec une lettre d'avocat et 2-3 bazookas en provenance de chez Epic. Hein, on n'a pas le fin mot de l'histoire, mais c'était assez bizarre cette disparition. Et donc le jeu repop maintenant sur PC et iOS avec ce nouveau nom. Alors il faut pas se mentir, hein, c'est pas aussi léché que Fortnite, hein, mais ça fait le taf. Il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de joueurs inscrits sur la page Facebook. Et je pense que plus le truc va être connu, plus ça va monter. Puis à un moment, la Chine va trouver un moyen d'interdire Fortnite en Chine. Ça va cartonner. Non, voilà. Moi, ça me fait toujours rire, ce genre d'histoire. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez les voir. Pour l'instant, évidemment, c'est pas distribué chez nous. Mais comme dirait l'autre, si vous êtes vraiment curieux, ça se teste. C'est possible.
Et on va passer du côté des apps et on va reparler de Plex.
Oui, Plex, qu'on aime beaucoup. Surtout qu'on a vachement moins de data, regardez, sur son NAS qui vient de mourir. Excusez-moi, j'ai mal, je pense que je vais avoir... Tu sais, je suis dans la phase où je me rappelle de temps en temps de « Ah c'est ouais, ça. Merde, j'ai perdu ça aussi. » Et c'est assez douloureux, hein. On n'a pas l'air comme ça, mais il n'y a pas mort d'homme, comme dirait l'autre, mais ça agace. J'ai pas perdu mes photos, ça déjà, j'ai sauvé ma propre vie parce que ma femme m'a regardé bizarrement à ce moment-là.
C'est ça, oui.
Mais bon, bref, donc Plex, hein, c'est ça dont on parlait, avec les petites nouveautés qui arrivent. Cette fois, c'est l'arrivée des séries web sur Plex en direct. Bon bah ça m'arrange, un rapport au fait que j'ai tout perdu, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais du coup ils ont signé des deals avec plein de gens qui font des séries web directement, d'habitude regardables sur des sites spécifiques, et là du coup ça sera tout intégré dans Plex, dans un menu spécifique. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des productions de chez GQ, de chez Saver, Epicurious, Pitchfork, ça va te plaire, Condé Nast, The New Yorker, ça va me plaire aussi, et toi aussi.
Plutôt série documentaire alors du coup en fait.
Alors en fait il y a un peu tout, ils ont vachement mis en avant des documentaires pour l'instant, mais ils disent qu'il y aura de la fiction, ils disent qu'il y aura vraiment un peu tout, de la politique, une espèce de melting pot du podcast filmé, vidéo et des vraies productions, puisqu'il y a un peu de tout dans ce qu'ils ont signé. Et le truc c'est que ça leur permet de gagner de l'argent au passage, puisqu'il y aurait un deal croisé, mais qui est pour l'instant pas public, entre certains éditeurs et Plex. Du coup les revenus de la pub etc. seront partagés, donc ils s'orientent de plus en plus dans la fourniture de contenu, on va dire. Ils sortent vraiment du Cody-like qu'on connaissait il y a encore quelques années. Ils se professionnalisent vraiment, et c'est un petit peu logique, et on comprend mieux aussi les choix qu'ils ont fait dernièrement au niveau développement des technologies etc. Donc bon, on verra ce que ça donne. Ils annoncent quand même la bagatelle de 19 000 épisodes répartis sur 67 shows pour le lancement. Alors après combien il y aura de trucs intéressants, on verra, mais c'est pas mal, le chiffre est assez costaud. Et ils promettent qu'effectivement c'est que le début, donc Plex concurrent de Netflix c'est pas tout de suite, mais en tout cas ils se mettent de plus en plus à pousser du contenu en direct sans qu'on ait besoin de télécharger des choses dans des zones sombres des internets 2.0.
Ouais, et puis surtout ils vont sur un secteur où il n'y a pas grand monde en fait en ce moment, hein. L'agrégation de ce genre de documentaires, des petites séries, des mini-séries, des web-séries, bah ouais, etc.
Il y a carrément personne, et moi j'aimerais bien qu'ils signent des trucs un peu pétés genre Black Pills et compagnie, ça pourrait être rigolo quoi.
Allez, on va parler d'une news qui va te faire plaisir, hein, l'Amiga, hein, l'Amiga.
Amiga vaincra. Détends-toi, Akaf, tout va bien.
Voilà, Amiga n'est pas mort, hein. Ça, c'est pas une nouvelle. On en reparle régulièrement sur Geekzone. Il y a toujours une très très forte communauté qui est derrière. On a parlé souvent d'émulateurs qui permettaient de continuer à faire tourner les jeux sur PC moderne. Ce qu'on savait pas trop, en tout cas moi, c'est que il y a des gens qui continuent à développer l'OS pour Amiga en fait. Et ça, c'est quand même assez fou.
Ouais, ouais.
Ils en sont donc là à la version 3.1.4. Alors pourquoi on en parle? Parce que c'est une grosse update. Je vous ferai une petite news cet après-midi sur Geekzone qui expliquera tout ça un petit peu plus en détail, mais on peut déjà vous dire que il y a eu grosse fournée de corrections de bugs dans tous les sens. Il y a à peu près, je crois, c'est 320 000 signes la release note, c'est quand même pas mal.
Il y a des mecs qui ont bossé, mine de rien.
Voilà, donc il y a un nouveau workbench moderne, il y a un support pour les disques étendus, enfin les grands disques durs, donc ce qui n'était pas le cas a priori avant.
Parce que je vous rappelle que 50 mégaoctets, c'était un peu les super disque dur de voilà, l'époque, hein, donc il fallait évoluer.
Support natif des CPU Motorola 68000 et 68060. Il y a un nouveau disque Doctor a priori, encore plus avancé, et puis une meilleure gestion de tout ce qui est support file system CD-ROM, DOS, etc. Je vous mettrai tous les détails avec les liens qui vont bien pour cette version donc 3.1.4, mais si vous êtes toujours fan d'Amiga, si vous avez encore une vieille machine qui traîne chez vous, eh bien sachez que vous pouvez vous procurer donc ce nouvel OS. Le prix, ça reste abordable. On tourne autour de 30 balles avec les c'est quoi, c'est 25 balles pour le soft, et puis vous avez 5 balles de taxes supplémentaires à payer.
Taxes diverses et variées.
Voilà, donc il y a plusieurs versions, les versions pour les Amiga 4000, Amiga 3000, Amiga 500, 600, 2000, 1200, etc. Donc regardez bien en fonction des machines que vous avez, mais bref, je vous renvoie à la news que je ferai cet après-midi et qui récapitulera tout ça.
Ouais, alors moi je voulais juste insister sur un truc, c'est que cette version-là, les droits Amiga en fait, c'est un gros bordel au niveau d'Amiga OS, les droits des ROM, les droits du soft, etc.
Ouais, il y a Kickstart aussi.
Le Kickstart, ouais, c'est les ROM, etc., qui appartiennent pas forcément au même mec. Donc bon, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est marrant dans le développement, c'est que ça va aussi servir pour les émulateurs du coup à terme, qui pourront faire plus de choses plus facilement. Donc c'est assez rigolo parce que bon, en termes de business, ça va intéresser 50 personnes. Enfin, j'exagère à peine. C'est pour ça que ces updates sont payantes d'ailleurs. C'est pour gagner quelques sous, considérant le travail assez titanesque que ça demande. Mais du coup, ça ouvre des perspectives pour les émulations futures et c'est plutôt intéressant.
Voilà, donc qui clôture la partie app. On va s'intéresser à la culture et de la culture 100% Star Wars cette semaine.
Bim !
Voilà, ouais, voilà. On va faire vite, hein. On va passer en vue déjà deux choses dont on vous a parlé cette semaine sur Geekzone. La première, c'est la sortie d'un documentaire qui avait disparu, un documentaire qui date d'il y a 40 ans quand même, qui était un documentaire qui avait été réalisé. Voilà, un petit jeune documentaire qui avait été réalisé donc par le réalisateur français Michel Parbeau sur le tournage de Empire Strikes Back, l'Empire contre-attaque, un documentaire qu'on n'a jamais réussi à voir dans son intégralité pour des raisons assez obscures. Il était apparu il y a quelques mois dans une version de 15 minutes, si je dis pas de bêtises, et avant ça on n'en avait que des bribes, en fait, que des extraits, et puis là manifestement on a réussi à remettre la main dessus. En tout cas, c'est Adi Wen, qui est donc le créateur du projet Star Wars Revisited, qui est un projet communautaire autour de Star Wars, qui a réussi donc à récupérer une version intégrale. Alors c'est en qualité SD évidemment, puisque le documentaire a 40 ans, mais c'est quand même une heure de coulisses à une époque où c'était pas encore trop orienté marketing, on va dire. C'est un vrai documentaire, donc on peut voir des choses et entendre des choses qu'on n'entendrait probablement pas aujourd'hui dans les making-of contemporains, donc c'est plutôt intéressant. Le documentaire a donc été tourné en 79 et voilà, si vous êtes fan de Star Wars, jetez-vous sur la vidéo qu'on a linkée dans une news cette semaine sur Geekzone. Si vous avez une heure à perdre, c'est l'occasion d'en apprendre peut-être un peu plus sur le tournage de ce qui reste, à mon sens, un des meilleurs films Star Wars de la saga. Je pense que je m'avance pas trop en disant que je dois pas être le seul à penser ça.
Non.
Voilà. Du côté Star Wars toujours, une nouvelle sortie chez Lucasfilm d'une web-série qui s'appelle Our Star Wars Stories, qui est une série de 5 épisodes de documentaires en fait sur la communauté des fans de Star Wars, avec un angle assez particulier, puisque le premier épisode, on découvre donc l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Albin Johnson, qui est le fondateur de la 501e Légion, qui est une espèce de grosse organisation à la base de cosplayers Star Wars, qui est devenue assez titanesque, assez gigantesque, et qui sponsorise pas mal d'activités caritatives. Alors, sans trop vous spoiler le documentaire, qui est assez court, hein, je pense que la vidéo fait une dizaine de minutes, on découvre en fait que Albin Johnson a eu une histoire un peu dramatique dans sa famille, puisqu'il a perdu donc sa fille qui a été emportée par un cancer très très jeune et qui était une grosse fan de Star Wars. Donc il y a toute une histoire assez mouvante autour de ça, et sur le fait que voilà, à force de s'intéresser, de s'investir dans l'univers Star Wars, il a fini par rencontrer George Lucas et il a eu droit à un merci de George Lucas qui visiblement l'a rendu très très heureux. Et donc il explique tout ça au micro de Jordan Embro, qui est un grand fan de la saga, qui a déjà commenté et produit un paquet de documentaires sur le sujet. Donc là, c'est une série officielle produite par Lucasfilm qui s'appelle donc Our Star Wars Stories. Normalement, les épisodes, qui seront au nombre de 5, sortent tous les mardis. Et donc le premier est disponible et on vous l'a linké dans une news sur le site Geekzone. Donc je vous renverrai à la news en question pour aller voir tout ça. Et puis très très vite, je voulais parler d'une dernière petite news toujours concernant Star Wars, puisqu'on a des nouvelles de la série télé qui devrait être produite par Jon Favreau. Jon Favreau, je te présente plus, hein, tu sais encore qui c'est, j'espère.
Oui, bah oui, quand même.
Ouais, monsieur Iron Man, un des pères fondateurs du Marvel Cinematic Universe, qui du coup maintenant bosse de l'autre côté de la barrière chez Disney, mais du côté Star Wars.
Et meilleur garde du corps du MCU.
Voilà, happy. et qui bosse donc sur une série télé dont on ne savait pas grand chose pour le moment, et a priori donc on a eu quelques infos qui ont leaké hier via son compte officiel Facebook et sa page Instagram, et qui donc explique que la série télé tournerait autour d'un Mandalorien. Donc c'est comme Boba Fett, en fait, ces espèces de chasseur de primes. Donc ce ne sera pas Boba Fett, ce ne sera pas son fiston non plus, ou son père, je ne sais plus, je suis perdu. Mais ce sera donc un autre personnage, donc un héros solitaire qui parcourt la galaxie dans la période qui sépare en fait la chute de l'Empire, donc la fin de la première trilogie, et l'émergence du First Order, donc la deuxième, enfin ça devient compliqué, donc la deuxième trilogie.
Tu t'es embarqué dans le truc, moi ça me... Vas-y,
donc,
je te regarde.
Qui se passe après l'épisode 4, 5, 6, donc après le retour du Jedi, et avant donc The Force Awakens. Voilà, ça comblera les trous entre ces deux films. On n'a pas plus d'infos pour le moment. On a des rumeurs de casting concernant la possible apparition de Pedro Pascal. C'est le monsieur qui jouait dans Game of Thrones notamment, mais aussi dans Narcos. Mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment. On imagine que Disney va commencer à communiquer bientôt sur le sujet. La dernière petite info que je voulais donner par rapport à cette série télé, c'est qu'on annonce un budget de 100 millions de dollars pour 10 épisodes. C'est quand même pas rien. Ce qui prouve une fois de plus que Disney a vraiment l'intention de mettre tout l'argent sur la table pour leur service de streaming qui devrait se lancer, on ne sait pas encore trop quand, mais bientôt. On avait parlé des séries télé Marvel enfin des séries de streaming Marvel produites par Marvel Studios, c'était quoi la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus. Voilà, c'est encore un autre projet qui vient s'ajouter à l'édifice streaming de Disney, donc je pense qu'il va falloir compter avec eux dans un avenir très très proche et on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler quand il y aura d'autres annonces sur le sujet. On va passer du côté de la tech avec une petite réorganisation du côté de la nomenclature Wi-Fi.
Ah bah, une réorganisation bienvenue, j'ai envie de
dire. Il était temps, ouais, c'est ça.
Parce que plus personne ne comprend rien au truc de Wi-Fi depuis très très longtemps. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, le grand public n'a jamais rien compris. Hein.
Le grand public qui dit la Wi-Fi, d'ailleurs.
Alors, ouais, alors si vous dites la Wi-Fi, j'ai des noms, hein, j'en connais. C'est comme les gens qui disent la backup. Quand il y aura la révolution, je mettrai votre tête sur un morceau de bois.
Vous serez tous rasés.
Non, j'irai au couteau à beurre et il va vous manquer la tête. À la fin, ce sera long et douloureux. Donc, non, on dit le Wi-Fi, hein, le réseau Wi-Fi, et on dit le backup. Quoique, mais je me fous de vos raisons. Si vous dites autre chose, vous avez tort. Du coup, on a quand même une grosse mise à plat qui va nous permettre, au lieu d'appeler les Wi-Fi le 802.11ac, 802.11n, enfin bref, tout, personne ne se rappelle de qui fait quoi.
C'est ça.
Maintenant, on va avoir des trucs hyper simples. Wi-Fi 1, c'est de la merde. Wi-Fi 2, c'est de la merde. Wi-Fi 3, bah, c'est toujours de la merde. Et etc. jusqu'à Wi-Fi 6 qui va sortir en 2019. Alors, le Wi-Fi 1, c'est les technos de 99, donc forcément, c'est pas fabuleux. Hein, c'est le bon vieux 802.11.b pour ceux qui connaissent. Le truc un peu classique qui marche pas trop mal chez tout le monde actuellement, bah, c'est le Wi-Fi 4, en fait. Hein, c'est le 802.11n de 2009, celui qui est assez répandu et qui marche pas trop mal. Et le 5 date de 2014 et commence à être à peu près partout normalement si vous avez un petit peu upgradé. Et on attend donc la finalisation des specs du Wi-Fi 6. Alors, vous allez voir apparaître des trucs hein, qui vont vous promettre la lune. Alors, c'est le AX, je crois, l'ancien nom, 802.11AX Technology. Ce truc-là commence à être mis en avant par Asus, etc. Mais les specs ne sont pas terminés, elles ne sont pas dans le marbre. Donc, bah, vous enflammez pas, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dedans. Donc, attendez d'avoir des jolis logos Wi-Fi 6 en 2019 pour faire des achats. Et l'avantage, c'est qu'ils bossent sur les deux bandes passantes, le 2.4 et le 5 GHz. Puisque l'avantage du 2.4 qu'on des fois on oublie, mais ça passe mieux à travers les murs, ça permet de déployer plus facilement que le 5 GHz, ça porte plus loin, etc., etc. Donc il y a plein d'avantages. Donc le Wi-Fi 6 bosse beaucoup avec cette fréquence pour essayer d'un petit peu améliorer tout ça sans se reposer uniquement sur le 5 GHz, qui lui aussi a des limitations, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, et puis bah, je vous rappelle que les changements de nom c'est en 2019, puisque les carburants changeront aussi de nom, donc on va plus rien retrouver en 2019, ça va être pratique.
Ouais, et on vous linkera un papier officiel donc qui vous explique tout ça dans les détails. On revient à Google et de nouveau du jeu vidéo.
Ouais, vite fait, parce que donc la grosse news qui a été un petit peu balancée partout, c'est Google se met au streaming de jeux vidéo en partenariat avec Ubisoft. Donc, nos amis de chez Google ont fait effectivement un petit test, ont mis en place un test aux États-Unis uniquement, malheureusement, d'une nouvelle techno de streaming qui permet en fait de tester un jeu nouveau de chez Ubisoft, puisque c'est Assassin's Creed Odyssey qui vient de sortir. J'espère que vous aimez la Grèce antique. le but du jeu, c'était de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, c'est rien de nouveau, hein, puisque le gros... on va dire, comment je pourrais vous dire ça, le Graal de certains fournisseurs de jeux vidéo, c'est de vous faire un Netflix du JV où vous payez votre abonnement et vous allez avoir votre catalogue de jeux vidéo sans installation, sans rien. Vous allez directement jouer, reprendre votre sauvegarde, etc. Ça existe déjà. Il y en a qui s'y essayent depuis longtemps. Il y en a qui sont même morts depuis puisqu'ils sont partis un petit peu trop tôt par rapport à la tech. Et là, ce qui me fait un petit peu marrer, c'est que tout le monde s'est enflammé, mais en oubliant qu'on a exactement les mêmes problématiques côté cloud gaming qu'avant. Donc, je veux vous linker un petit papier dans le billet de ce podcast qui nous vient de chez Atlantico, qui a eu la bonne idée d'interviewer monsieur Yvan Godet, alias Yvan Le Fou, mon ancien chef chez Joystick, dit les mêmes choses que ce que je pense, hein, que globalement, on aura les mêmes problématiques aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire qu'Internet s'est développé, mais pas assez. On oublie souvent qu'en France, parce qu'on est très, très privilégié en France au niveau de la qualité de nos connexions, quoi qu'on en pense.
Je te confirme. Voilà. Moi qui suis en Belgique depuis 2 mois, je te confirme que c'est pas tout à fait la fête du slip ici.
Et voilà. Et puis bah c'est pareil au Canada et c'est encore pire aux États-Unis, ça tombe bien puisque ouais. Ça nous vient de là-bas. Donc là, aux États-Unis, vous pouvez avoir parfois des fibres ultra bien, etc. Mais c'est plutôt le coup de bol. Hein. Les trois quarts des mecs ont des connexions ADSL vraiment pourries quand ils ont de la DSL. Donc du coup, vous voyez cette techno qui nécessite des bandes passantes de ouf, qui nécessite des temps de latence de ouf, des serveurs à côté de chez vous donc. Et c'est donc des déploiements très 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 compliqués. Donc pour l'instant, moi, toute cette annonce autour de Assassin's Creed Odyssey et Google, je vois ça un peu comme des effets de manche et du bon marketing, très pratique pour Ubi d'ailleurs, hein, qui du coup met à disposition son dernier bébé sur le truc, où ils savent que de toute façon ça va concerner très peu de gens, et Google qui dit regardez la GCP, la Google Cloud Platform extraordinaire, on fait des trucs magiques. Donc oui, c'est l'avenir peut-être si on n'est pas tous morts d'ici là, et si globalement les connexions arrivent à suivre, et pour l'instant on n'y est pas du tout. Il existe des solutions, techniquement on sait que ça sera faisable à un moment donné, mais je voulais tout de suite calmer les ardeurs de tout le monde, ce n'est pas pour demain, on va continuer de télécharger et lentement pour certains vos derniers jeux.
Vous y avez peut-être eu droit cette semaine, c'était la mise à jour, la grosse mise à jour de Windows 10. C'est quoi, c'est tous les mois, tous les deux mois?
Alors pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont sur un rythme de deux par an pour les très très grosses, okay. Mais c'est a priori là la fall update en fait. Mais avant, okay. On a eu la creator update, donc ils essayent de jouer avec les mots au cas où il y a des petits changements de calendrier, j'ai l'impression. Et donc effectivement, là cette fois, on a eu la grosse mise à jour de fin d'année de Windows 10.
Alors quoi de neuf, hein?
Plein de choses. Je vais vous linker trois billets parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans cette mise à jour. Moi, je retiens des trucs de nerd, des trucs de geek. Alors oui, tout le monde va vous parler du mode sombre de Windows 10 enfin dispo. Alors moi, j'ai aussi macOS de l'autre côté, donc un vrai mode sombre. Si vous voulez voir la gueule que ça peut avoir, il faut regarder du côté de macOS 10.4, qui est quand même très très bien et surtout suivi par les applications. Mmh. Moi, dans le cas de Windows 10, bon bah c'est très bien pour l'explorateur de fichiers, mais dès que vous en sortez, c'est pas magique. Non, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le nouvel outil de capture d'écran. C'est les trucs du mec qui bosse sur Windows, tu
c'est
vois.
C'est ça.
T'as besoin de faire des articles et de capturer des écrans, des machins, des bouts de trucs. Maintenant, on a enfin un outil intégré qui permet de faire ça bien, d'avoir directement l'écran dans un logiciel qui permet de refaire un petit peu de retouches et d'exporter tout ça facilement, voire de le partager directement sur Internet.
Il y a un nouveau clipboard aussi.
Et c'est, alors ça, c'est le deuxième truc qui m'éclate. Enfin, un clipboard avec un historique. Ça existait aussi, mais il fallait acheter des sorts.
Oui, c'est ça.
Au secours. Alors en plus, pour les mecs qui ont des téléphones Windows, non je déconne, mais pour les mecs qui ont des machines partagées sous Windows, il est possible de tout balancer sur Internet pour avoir un clipboard online.
Dans le cloud.
Dans le cloud. Alors au niveau sécurité, je sais pas trop ce que ça donne, donc faites gaffe en partageant vos mots de passe quand même. Mais c'est pas mal de l'avoir intégré à l'OS. Moi, il faut savoir que bon, évidemment, on a ça du côté Apple aussi. C'est des choses qui sont extrêmement pratiques. Moi, j'ai même un logiciel en fait dans l'univers Apple qui marche entre macOS et iOS qui s'appelle Copied, en français un Copied, IED à la fin sans l'accent, qui vaut pas très cher et qui est juste, mais moi je peux pas me passer de ce truc là mais ça permet aussi de travailler directement sur le clipboard, donc ça va me changer le format de certains textes, me rajouter des infos si je veux, etc. Donc c'est des trucs qu'on peut en plus travailler derrière, qui sont beaucoup plus puissants qu'un simple historique du clipboard, mais il faut bien commencer quelque part. Et du coup, bah ça, c'est hyper pratique, parce que quand on passe sa vie à faire des coupé-collés pour le boulot, je vous jure que c'est le genre de feature qui rend fou quand elle n'existe pas sous Windows. Donc ça, c'est très très bienvenu. Alors je sais pas si toi, t'as des trucs qui t'ont marqué.
J'étais content, et puis j'ai vite déchanté. En fait, il y a le lien possible maintenant avec les téléphones Android, qui me semblait être une bonne idée. Donc
exact.
La possibilité de pouvoir envoyer des SMS directement depuis ton poste Windows, et de pouvoir là aussi synchroniser un paquet de trucs. Le seul petit souci, et on en revient toujours à ce problème de segmentation du marché Android, c'est que c'est compatible qu'avec Android 7 et au-delà. Et malheureusement, mon vieux téléphone Asus Zen machin, il est pas en 7.0.
Ah, t'es vraiment en Lada. Ah, t'es en Lada Android, toi.
C'est ça. Donc en gros, quand j'ai installé le petit soft magique, il m'a dit, c'est cool, mais il va falloir updater ton OS d'abord. Et j'ai fait, oui, mais je peux pas parce que mon fabricant, il veut pas. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage, j'ai pas pu tester, j'aurais bien voulu, mais ça a l'air assez prometteur. Enfin, je trouve ça plutôt cool finalement que, bah, comme il n'y a plus de Windows Phone, on puisse quand même faire quelque chose avec son téléphone et Windows. Ça manquait un peu, on n'est plus obligé de passer par des AirDroid et compagnie. Mais bon, voilà, là, ça... le même problème avec Google, c'est que bah, si vous n'avez pas la dernière version, vous l'avez dans le babar.
Et puis alors, je précise évidemment, ça ne marchera jamais sur iPhone, puisque l'intégration avec le truc message d'Apple n'est pas du tout à l'ordre du jour, vu que c'est complètement crypté et sécurisé du côté iCloud. Nous, c'est un truc qu'on a du côté Apple. Quand je bosse sur Mac, je peux envoyer des messages depuis mon téléphone, des SMS ou des e-messages depuis des années. Ça marche très très bien, mais c'est sécurisé à la Apple, c'est-à-dire dans leur petit jardin avec les grands murs. Du coup, pas possible de rentrer avec Windows. C'est un peu chiant. Techniquement, on comprend pourquoi, je comprends qu'effectivement ça soit aussi très frustrant.
Bref, on vous linkera donc trois papiers pour avoir toutes les nouveautés sur ce patch d'octobre pour Windows 10, et puis on va passer à la suite avec Freeride Traveler. Moi je l'ai vu passer aussi et je me suis dit oh non.
Ah bah oui, c'est le retour, c'est le retour de la machine à écrire pour hipster.
Ouais.
Ça me fait délirer. Je vous en parle parce que donc ils ont rebalancé un projet de financement sur Indiegogo
ça finira par passer.
Ah oui, bah oui, bah tu m'étonnes. Là ils vendent un truc à $269. C'est quoi? C'est une machine à écrire numérique où vous pouvez envoyer après vos trucs sur Dropbox, bah pas iCloud évidemment, mais enfin bon, tous les fournisseurs de cloud habituels, hein, Google Drive et compagnie. Et le produit hors Indiegogo sortira à $600, ce qui me fait me rouler par terre de rire puisque bah pour ce prix vous avez un écran e-ink de la taille d'un timbre-poste, un petit clavier MX Brown maintenant, ça c'est la nouveauté de ce modèle, donc le clavier n'est plus horrible comme en plus c'est était le premier modèle, ce que je trouve assez hallucinant pour une machine à écrire. Les mecs avaient mis un clavier juste pas terrible, quoi. Et du coup, on se retrouve avec un produit qui ne sert que à taper sur son petit écran, à mon avis, dans un Starbucks, voire dans un café encore un peu plus haut de gamme, parce que là, quand même, on est dans la hipsterisation totale. Il vous faut des moustaches pour utiliser ce truc-là. Mais je vous conseille d'aller voir le lien, puisque vous allez voir l'objet, vous allez voir l'interface, et vous allez vous dire « Mais c'est pour qui ?» Eh bien oui, je me pose aussi la question, je n'en sais rien moi, de pour qui c'est. Si vous voulez travailler sans distraction, je vous conseille d'acheter un iPad, un clavier externe, et vous allez voir, on peut faire de l'informatique moderne et utiliser des softs qui vous empêchent d'aller sur Facebook toutes les deux minutes, si c'est ça votre problème.
Pour le même prix en plus.
Pour le même prix, voire moins cher, puisque un iPad ça coûte 300 balles, et avec un clavier, je veux dire, on doit pouvoir se sortir un pack à 400 balles et travailler dans de très bonnes conditions. Donc voilà, Freeride Traveler. Non, n'y allez pas. Mais par contre, on peut en rire et ça nous fait du bien.
Et on va terminer avec de nouveau nos amis chinois, tiens.
Oui, bah alors là, on en rigole moins parce que c'est un peu compliqué. Je voulais en parler, je l'ai rajouté sur la conduite juste avant d'enregistrer le podcast, puisque c'est la news de ce jeudi après-midi, donc de votre vendredi matin. C'est une énorme enquête qui est sortie chez Bloomberg à propos de The Big Hack, le gros craquage de nos amis chinois qui, soi-disant, auraient mis des petites puces de la taille d'un grain de riz dans plein de serveurs de boîtes américaines. Et qui du coup espionne tous les secrets de la Terre, enfin américain du coup.
Film.
Ah bah oui, on est en plein dedans. Hein. Depuis des années, donc évidemment, il se passe plein de trucs. Il y en a qui prennent ça pour argent comptant et qui font genre oh là là, mon Dieu, c'est horrible et tout. Et puis il y en a qui font genre un chip de la taille d'un grain de riz qui envoie des données et personne voit rien. What the fuck, comment ça marche? C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a une bonne part de FUD. Évidemment, il y a plusieurs boîtes qui sont citées, dont Apple dans l'histoire, qui a fait genre, mais vous êtes vraiment des gros rigolos, les mecs. Vous racontez vraiment n'importe quoi pour vendre du papier. C'est très, très bien. Et qui disent, mais si vous confondez avec les problèmes qu'on a eu en 2016, ça n'a juste rien à voir. Mais c'est pas grave. Continuez de raconter de la merde. C'est pas compliqué. Alors, il y a du vrai et du faux des deux côtés, puisqu'il faut savoir que même chez Apple, hein, quand on se fait livrer des serveurs, on essaye de faire en sorte d'être relativement discret. On les fait pas livrer à l'adresse Apple, tu vois, par exemple, un truc de base. Hein. Et comme toutes les boîtes du monde qui achètent encore des serveurs qu'ils fabriquent pas eux-mêmes, quand le truc arrive, il est démonté, désossé, revérifié de A à Z avant d'arriver dans le centre serveur, si tu veux. C'est un truc que font toutes les grosses boîtes pour se protéger des hacks. Et puis, il faut savoir que c'est pas uniquement contre les Chinois qui font ça. Hein. C'est la CIA est connue, enfin la NSA même, est connue pour avoir fait exactement la même chose avec des bio Cisco par exemple. Donc c'est prouvé, il y a eu des procès, etc. Enfin, des procès, je ne sais même pas, mais en tout cas, ça avait explosé il y a quelques années. Mmh. C'est un classique, les mecs essayent de rentrer, évidemment, sur ce genre de réseau pour avoir des informations. Maintenant, bah, je vous conseille d'aller lire, je vais vous mettre le lien, évidemment, de l'enquête Bloomberg, vous allez la lire, et puis bah, vous en tirerez les conclusions que vous voulez dans votre coin, tout en sachant que tout a été déjà fermement, mais alors très très fermement démenti par pas mal d'acteurs cités, en mode genre, mais les mecs, vos informations, elles sont complètement pourries. Moi, en oubliant tout ça, juste en me basant sur l'aspect technique, je trouve ça très louche. Mmh. Parce que là, c'est le chip grain de riz un peu magique, tu vois. La façon dont t'es expliqué le rôle du chip dans le papier n'est pas très claire. Donc, on en reparlera s'il faut. Donnez-moi votre avis sur le forum. Je pense que ça nous fera des discussions intéressantes. Mais bon, il est évident que la sécurité informatique... c'est la problématique de nos jours, on va pas se mentir, mais là je trouve que les mecs sont un petit peu hardcore. Bon, après il est évident que la Chine et les États-Unis en termes de relations autour du numérique, c'est un petit peu tendu en ce moment. C'est pas prêt de s'arrêter, mais il faut savoir que de toute façon quand ils ont besoin d'avoir des informations, c'est pas forcément avec des petits chips comme ça qu'ils se prennent la tête, hein. Ça va plus vite et c'est moins cher d'aller récupérer directement des humains.
Oui, du social engineering.
Mais voilà, même de la beau du, tu vois, les bonnes vieilles pots de vin, mon gars, à c'est l'ancienne, ça. Tu vois, t'achètes le mec, ça te coûte vachement moins cher que t'emmerder à mettre une puce dans le truc. On a le problème, il y a des services qui sont de défense économique qui existent dans tous les pays pour essayer de protéger les petites boîtes de chaque pays contre plein d'autres pays. C'est la guerre permanente, il faut pas l'oublier, sur fond de baston économique. Et quand les mecs arrivent avec les chéquiers, ils ont pas besoin de se cacher, hein, ils font bonjour, c'est pas mal le truc que t'as inventé, tu veux combien de millions pour venir le faire chez nous? Donc voilà, tout ce FUD autour du truc, enfin moi je pense qu'il y a une grosse part de FUD, hein, donc ça me paraît assez bizarre. D'ailleurs, est-ce qu'on a expliqué ce que c'était le FUD, Fasquille?
Eh bien écoute, vas-y, raconte-nous ouais, ce qu'est le FUD.
Ah non, mais voilà, écoute, non, je préfère que tu aies regardé sur la page internet pendant qu'on était en train d'en parler, hein. Fear, Uncertainty et doubt. J'arrive pas, refais le mot du milieu mieux.
Fear, uncertainty and doubt.
Voilà, donc c'est quand tu balances des informations pour décrédibiliser, filer, enfin faire peur.
Faire
aux
peur,
gens,
voilà, c'est ça. Il faut simplifier les gens.
Tu veux que tout le monde remette en question les trucs auxquels il croit et parfois ça marche très très bien. Donc voilà, ça vous fait de la lecture, c'est très intéressant. En tout cas, ça se lit comme un bon roman, donc de toute façon vous ne perdrez pas votre temps. Et puis même si c'est faux ou un petit peu arrangé, il faut pas oublier que c'est du domaine du possible, mais j'insiste, hein, les humains c'est plus facile à hacker que les ordinateurs en ce moment.
Et c'est la fin de ce 61e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine dès 8h pour une nouvelle sélection de l'actu. Et puis bah bon week-end, CAF.
Et bientôt aussi, profitez bien.
Voilà, répare bien ton NAS.
C'est bon, alors c'est pas, t'es pas obligé de me faire du mal juste à la fin du podcast. Y a rien à réparer, je vais en refaire un neuf et je vais remettre des trucs dessus. C'est pas grave.
Ce sera encore une bonne excuse pour acheter plein de trucs.
Exactement.
Salut.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du theorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
Gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly, you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.